espaces frontières. Je vais vous parler d'une aventure que j'ai vécue avec un collègue conteur burkinabé, avec qui nous avons co-créé un spectacle qui s'appelle Androgyne. Et j'ai proposé au CEMELO de témoigner un peu autour de la co-création, de ce chemin de création sur le thème de l'androgyne. Voilà, donc je ne voyais pas trop dans quel séminaire ça pouvait aller, mais on a décidé que c'était celui-là. C'est bien, pour un printemps, c'est pas mal. Donc voilà, alors pour commencer, pour créer ce spectacle, d'abord il y a eu une rencontre entre moi et Bakary Traoré, qui est ce fameux conteur burkinabé, et une rencontre qui s'est passée humainement, comme on rencontre les gens, normalement, et puis après une rencontre au plateau, sur un petit tour de compte. Et de cette envie, de cette expérience de partage de plateau, est née l'envie de faire un spectacle, enfin, un projet, de réfléchir à un projet, entre guillemets, plus sérieux, pas se contenter de se passer la parole, mais de construire quelque chose de plus sérieux. Et donc, nous voilà un jour autour de la table de ma cuisine à se dire, oui, mais alors, de quoi on pourrait parler ? Parce que l'idée n'était pas de faire un tour de compte, mais d'aborder un sujet. Et comme à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était 2014, pour vous situer, fin 2013, début 2014, dès qu'on ouvrait la radio, on entendait à peu près 23 fois par minute, non, j'exagère, le mot « identité ». Et au bout d'un moment, le mot « identité », ça, je ne sais pas vous, mais ça peut gonfler, quoi. Moi, j'en étais à peu près arrivé à cet endroit-là. Donc, je me suis dit que ce serait marrant de parler de l'altérité. De prendre la chose un petit peu à l'envers. Et du coup, avec Bakary, on a réfléchi, ouais, alors l'altérité, c'est vrai que nous, on n'est pas de la même culture, de quoi on pourrait parler. Et donc, on tournait autour de l'idée de premières idées, ça a été les différences des places entre les hommes et les femmes dans nos sociétés respectives et tout ça. Mais c'est un sujet un peu bateau, un peu planche à savon, on va dire. Donc, bon, on était en train de réfléchir autour de ça. Puis tout d'un coup, une vision. Un flash. Bakary, il est burkinabé, il est noir, mais très noir. Il est petit, plus petit que moi. Il est plus jeune, je pourrais être sa mère. Il est de la culture orale. Et moi, je suis plutôt de culture écrite et même instruite, parce que j'ai eu la chance de faire des études. Tout ça pour vous dire que tout nous séparait. Encore moins aujourd'hui, mais à l'époque, tout nous séparait. Et donc, quelque part, nous étions contraires. Et de voir ces deux personnes sur scène, je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est les deux contraires qui s'assemblent. Et ça, c'est le symbole de l'androgynie. Et donc, nous voilà partis sur cette idée de parler de l'androgynie. Alors, je dis que c'est le symbole de l'androgynie parce que c'est Mircea Eliade qui le définit comme ça, comme une coïncidence des opposés. Et du coup, on s'est dit, voilà, le sujet, il est trouvé. Déjà, nous, tous les deux sur scène, on incarne l'androgyne. Donc, nous voilà partis à chercher. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais après, c'est un peu vague quand même. On sait que dans androgyne, il y a homme-femme, mais non, ça va être guère plus. Et dès qu'on se met à chercher, il se trouve que les premiers récits qu'on trouve sont des récits d'origine, bien évidemment. Puisque si avant il n'y a personne ou une seule personne, pour qu'il engendre du masculin et du féminin, il est forcément quelque part androgyne. Et donc, l'androgyne, c'est par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, de Gaïa, qui engendre Uranos, donc, qui est déjà elle-même androgyne, enfin, Gaïa est androgyne puisqu'elle engendre Uranos, qui est un principe masculin, et qui, Uranos, va s'unir à Gaïa, et qui reste tellement collé sur elle qu'à eux deux, ils forment encore un androgyne. Et que le fait qu'il reste collé à Gaïa, et ben, évidemment, il empêche la mise au monde de la descendance, et donc c'est à la demande de Gaïa qu'effectivement Cronos va émasculer Uranos pour pouvoir libérer la vie sur Terre. Et donc là, je vous fais remarquer que il y a un phénomène de scission, il y a une brutalité, il y a une émasculation, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez récurrente. Donc, Une autre origine du monde, bah, c'est celle qui est. Alors, ça, après, moi, je mets des guillemets, parce qu'à l'époque, nous, on allait tâtonnant, on n'est pas anthropologue, on est juste des artistes. Pas juste d'ailleurs, nous sommes des artistes justes. Bon, je vais dire comme ça, c'est mieux. Et du coup, bah, évidemment, on va chercher, comme on essayait à chaque fois, parce qu'on était Burkina et France, Afrique et Europe, on essayait à chaque fois de trouver des pendants. Pour avoir un propos équilibré. Et du coup, on va chercher du côté africain. Alors, sans vous cacher, au début, Bakary, il dit, mon Drogine, il n'y en a pas en Afrique. Je lui dis, bah, si, Bakary, il y en a forcément. La statuaire, ne serait-ce que toutes les, la statuaire montre qu'il y a des androgynes. Il y a beaucoup, enfin, beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des statuaires, des fétiches qui sont et hommes et femmes. En général, horizontaux, c'est-à-dire qu'ils sont femmes en haut. Et mâle en bas. Il y a d'autres cultures où c'est dans l'autre sens, comme chez nous par exemple. Voilà. Donc on cherche et puis on tombe évidemment sur Diodo, le récit cosmogonique des Dogons, où c'est la même histoire. C'est Ama, le premier créateur, qui va créer la Terre et qui en fait son épouse. Et il est raconté. Alors ça, après, je mets des bémols parce qu'apparemment, j'ai entendu dire que l'informateur de Marcel Griol, il avait raconté n'importe quoi.
C'était l'initiation qui était faite.
Oui, bon, voilà. Voilà, je mets des bémols à ce que je raconte, mais en tout cas, ça nous a inspirés. On ne s'en sert pas forcément de ce récit, mais ça nous a inspirés. Il est dit que donc, Ama, le dieu suprême Dogon, crée la terre et en fait son épouse, et que la terre, une termitière lui sert de clitoris. Et la fourmilière lui sert de sexe, et que quand Ama veut s'unir à la terre, il y a la termitière qui se dresse, et que du coup, Ama abat la termitière pour pouvoir s'unir à la terre. Ce serait l'origine de l'excision. Et donc, comme il y a encore une fois violence et brutalité, va naître de cette union un fils qui est un fils solitaire, qui est, alors en fonction, on l'appelle le renard pâle ou le chacal. Et il naît en fait de cette terre excisée. Donc c'est la première naissance. Mais comme après la terre excisée, la copulation peut se passer tranquillement, ça dépend pour qui. Et du coup, la deuxième naissance, ça va être un personnage qui s'appelle le Nomo, qui lui n'est pas solitaire, mais double, et qui est à la fois mâle et femelle. Il est décrit comme ça. Il est décrit comme un personnage couple idéal. Qui est maître de l'eau, parce que sa corpulence montre qu'il est de l'ordre de l'eau, et de la parole, parce qu'il a 8 membres, et le chiffre 8 est le chiffre symbole de la parole chez les Dogons. Je précise parce que c'est important pour la suite. Voilà, donc bon, après ça continue, mais je vous raconterai si ça vous intéresse, mais je ne vais pas tout vous raconter jusqu'au bout. Mais donc, après le chacal qui est né solitaire, évidemment, il s'ennuie, mais il est tout seul, donc il va faire des conneries. Et du coup, bon, bref, je vous raconterai l'histoire après. Donc, ça, c'est pour la cosmogonie. Il y a d'autres exemples, bien sûr, où il y a cette idée d'androgyne qui est à l'origine du monde. Mais quand je dis que l'androgyne est dans les récits d'origine, il est aussi à l'origine de l'être humain, c'est-à-dire des anthropogonies. Et là, bon, bah, tout le monde connaît les récits d'Aristophane dans le banquet de Platon, où il y a les androgynes primordiaux, qui sont décrits comme deux êtres collés dos à dos, hein, qui ont donc 8 membres eux aussi, une grosse tête flanquée de deux visages identiques. Et il y a 3 espèces d'êtres humains à cette époque-là. Il y a des hommes-hommes, des femmes-femmes et des hommes-femmes. D'accord? Et il est dit que ces hommes-là sont très forts, et que comme ils sont très sûrs de leur force, je vous le résume, eh ben, ils décident un jour de défier les dieux. Et que du coup, ils vont être punis, ils ne vont pas être tués, éliminés, mais juste affaiblis. Et pour les affaiblir, on les coupe en deux. Alors, de là naîtrait la quête amoureuse. On chercherait notre double toute notre vie. Et ça pourrait expliquer aussi l'homosexualité, puisque, voilà. D'accord? Mais quand on coupe quelqu'un en deux, on peut se dire qu'on coupe, c'est pas vraiment. Hein, mais qu'il y avait des hommes-hommes, des femmes-femmes et des hommes-femmes qui étaient des androgynes. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette opération, il peut rester les 3 variétés. Bref. Donc, à l'origine de l'être humain, il y a cette histoire de Platon qui est racontée dans Platon. Et puis, évidemment, dans la Genèse, hein, le premier homme dans la Genèse, c'est Adam. Et il est forcément androgyne puisque nous sortons de sa côte, mesdames. Hein, donc là, c'est une androgynie qui est dans l'autre sens, qui n'est pas haut et bas, mais latérale, qui existe aussi dans d'autres cultures, mais nous sortons de la côte d'Adam. Vous êtes contente, hein, de le savoir. Bref. Et donc, lui, il est androgyne à l'image de son créateur, et puis avant l'extraction, et encore une fois, la scission de Ève. Hein. C'est encore une fois, il y a un truc qui est un peu violent quand même. Voilà. Alors, en Inde, il y a un autre mythe, c'est le mythe de, je ne sais pas comment ça se prononce, Purusa ou Purusa, qui se divise en deux moitiés de sexes différents. Et Purusa va copuler avec sa part féminine pour créer l'homme et les animaux. Donc, il est forcément androgyne au départ. En Afrique, il y a un autre peuple aussi, chez les Congos, où le premier humain, c'est Mutualunga, qui va se diviser en Lumbu, c'est les hommes, et en Muzita, je ne sais pas comment ça se prononce, qui sont les femmes. Enfin, bref, il y a l'androgynie qui est à l'origine. Dans tous les récits d'origine. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il est là, dans les récits, que c'est un être qui est ambigu, inclassable, qui va être soumis à des scissions, enfin, qui va être meurtri. Je ne sais pas si je peux le dire tout de suite, mais je vais le dire quand même, c'est que dans beaucoup l'androgyne, dans beaucoup de cultures, moi je n'ose jamais dire universel ou archétype, tout ça, mais dans beaucoup de cultures, les personnages androgynes ont une parole agissante. C'est-à-dire que oui, ils ont don de prophétie, ou ils ont don de bénédiction, malédiction, ils ont des rôles d'initiation. En tout cas, ils ont des pouvoirs dans les rituels de passage. Ils sont très souvent présents, sous des formes différentes, mais présents. Et entre autres, je voulais vous faire juste remarquer ça, c'est que, je dis ça parce que ça m'a beaucoup marqué à l'époque. À l'époque, on commençait à travailler là-dessus, je vais voir une expo photo à la médiathèque de Narbonne, où un photographe avait eu l'excellente idée de photographier le plus jeune habitant de Narbonne et le plus vieux habitant de Narbonne. Donc le premier habitant, il avait 7 jours, et le dernier, 104 ou 107 ans, je ne sais plus. C'était les photos noir et blanc. Alors, il y a toute une première période où on est bien incapable de dire si l'enfant qu'on voit en photo est un garçon ou une fille, hein, parce qu'on ne voit pas s'il est habillé en rose ou en bleu, on va dire. Et puis, à la fin, à partir de 80 et 90 ans, bah, je vous dis que ce n'est pas facile de savoir si la personne qui est photographiée est un homme ou une femme non plus. Ça veut dire que nous traversons aussi des âges androgynes. Et c'est pour ça que je dis que les initiateurs et les aides, tout ça qu'on retrouve dans nos histoires, eh ben, sont androgynes. Quand on arrive à un certain âge, et toujours un vieux, une vieille et tout ça, on dit oh, c'est parce qu'il est très très sage, c'est peut-être aussi parce qu'il est redevenu androgyne quelque part. Voilà, il est dans cet entre-deux, qui est le passeur, qui aide à faire passer les frontières. Voilà. Donc, dans les contes, puisqu'on va en parler, dans les contes, des personnages androgynes. Androgyne ou androgyne différé, hein, vous en connaissez un qui est célèbre, qui a le don de prophétie, c'est Tirésias. On reviendra sur son histoire tout à l'heure. Nous, on a cherché du coup à chaque fois des pendants sur le continent africain et le personnage androgyne, alors, Tirésias, je vous mets un peu sur la piste de ce qui va suivre. Tirésias, il acquiert son don de prophétie parce qu'il a affaire aux serpents. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Hein, il rencontre un couple de serpents enlacés. Alors il y en a qui disent qu'il les sépare, il y en a d'autres qui disent qu'il en tue un des deux, et qu'en tout cas c'est le fait de faire ça qui le fait basculer dans l'autre sexe. Et il va vivre dans l'autre sexe pendant un certain nombre d'années, et puis de nouveau il va faire cette même rencontre, il va ou séparer ou encore une fois couper, enfin tuer, et il va revenir, enfin, il va retraverser la frontière des sexes et redevenir homme. Et de ce passage-là, en fait, moi je dis que c'est de là qu'il acquiert son don de prophétie, puisque c'est là que, comme il connaît plus que tout le monde, il connaît plus que tous les êtres humains, puisqu'il a vécu femme et homme, il connaît plus que les dieux, parce que c'est même Héra qui va lui demander qui a le plus de plaisir à faire l'amour. Et comme lui, il est un peu couillon, il répond que c'est les femmes, et bien, il est frappé de cécité par Héra, Mais Zeus, pour amoindrir sa peine, lui donne don de clairvoyance. Donc c'est bien le fait d'avoir traversé la frontière des sexes qui va lui conférer son pouvoir prophétique. Bref, voilà. Et dans le pendant africain, dans le conte africain, bon, alors, on n'a pas épluché tout, mais par contre, la première chose à laquelle on a pensé, puisque comme il y a tiré l'histoire du serpent, on s'est dit, c'est marrant, il y a un serpent dans un des contes africains qui était assez connu, enfin qui est toujours assez connu, c'est Tithet et Tikor. Hein, Tithet et Tikor, c'est le grand serpent qui est coupé en deux, et de la tête, je dis bien de la tête, sort une femme. Et vous connaissez l'histoire de Tithet et Tikor. C'est quand même rigolo, de la tête sort une femme, d'accord, qui va passer sa vie à enfanter. Et du corps sort Tikor, qui lui va être un errant et qui va chanter. Il sort du corps du serpent, il chante, et sort de la tête, elle enfante. C'est juste rigolo, jamais rien de comme ça. Voilà, donc y a tout d'un coup, ce que je voulais dire, c'est que quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on s'est vite rendu compte que, je schématise énormément, hein. Marc ne me regarde pas avec des yeux noirs, je schématise énormément, mais moi je me suis amusé à dire, c'est marrant, on dirait que l'ombre de l'androgyne est un serpent. Et du coup on a cherché un peu, c'est ce qui a guidé un peu nos recherches sur quel récit choisir pour illustrer et parler de l'androgyne. Et du coup... Quand on se dit ça, on va voir un peu ce que c'est que le serpent. C'est intéressant parce que le serpent, il est un peu entre deux mondes, en fait. Le serpent, il vit sous terre, il vit sur terre. Son apparence lui donne... Il a un peu l'apparence d'une racine, mais c'est une racine vivante. Il pond des œufs. Donc, il est comme les oiseaux. Enfin, il est un peu toujours entre deux. Il est dans des espaces frontières, comme ça. Et donc il incarne un peu lui aussi le primordial en fait, l'origine. Et entre nous soit dit, ce qui est rigolo, c'est que dans le récit de la Genèse, c'est le premier animal qui est mentionné dans la Genèse. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vous le donne dans le mille. Il va voir Adam et Ève. Il va dire, oh, regardez le beau pommier. Oh, pourquoi vous n'avez pas le droit de manger de celui-là, hein? Et donc il va les initier à la connaissance. Donc, il est aussi initiateur. Donc, on retrouve un peu les fonctions de l'androgyne dans le serpent. Alors, il incarne un peu le primordial, mais il est aussi, le serpent, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il lui aussi est inclassable, il est multiple, parce qu'il on lui associe des formes, il évoque des formes multiples, il a un côté très ambigu, il peut être le pénis, il peut être la jambe, le cheveu, on trouve ça à la gorgone avec ses cheveux, il peut être la colonne vertébrale, chez les maîtres yogis, ça remonte par la colonne, ça peut être incarné par un serpent, il peut être le cordon ombilical, il peut être une ceinture, il peut être un fouet, il peut être un arc-en-ciel, enfin tout ça, il incarne plein de choses, il évoque plein de choses, donc il est vraiment inclassable lui aussi, dans cet entre-deux, quoi. Et puis, il change de peau, il a plusieurs peaux, et le fait de changer de peau, ça lui permet de deux choses. Ça lui permet de la métamorphose, et ça lui permet aussi une espèce de renaissance. Donc ça le met quelque part dans l'endroit de l'immortalité. Donc c'est aussi il a un rapport initiatique par rapport à la mort. Ça ne vous rappelle rien. Il a quelque chose que lui, il est quelque part éternel, il peut initier les autres à la mort, et puis en plus le serpent, il peut donner la mort, mais il peut aussi sauver de la mort, parce qu'il est en même temps poison et remède, et ça on le sait depuis très très longtemps en fait. Un venin à dose normale tue, un venin à faible dose soigne. Donc voilà, il est quelque part aussi cet entre-deux, il peut être maléfique et bénéfique, il a ces deux aspects, comme l'androgyne est homme et femme, lui aussi il a ce double aspect, voire plus, et puis du coup, comme il est métamorphique, bref, vous m'avez compris, il peut incarner, quand il est maléfique, il va être un dragon, une bête à sept têtes, ou alors il va être un protecteur divin. Donc il est vraiment dans cet espace frontière un peu flou. Et l'autre chose qu'a le serpent, et c'est pas rien, c'est que c'est le maître initiateur du langage secret. Tout le monde connaît le conte hein, qu'a rapporté Hugo, entre autres, dans un de ses premiers recueils. C'est lui qui va donner à ce jeune homme qui sauve un serpent, pour remercier le jeune homme, va le ramener au royaume de son père, qui est le roi des serpents, et le roi des serpents va venir chatouiller l'oreille du jeune homme, et ça va lui donner le secret du langage, va lui donner le langage secret, c'est-à-dire qu'il va ressortir et comprendre toutes les choses du monde. Ça, c'est pas rien, le secret. Bon, et ça, c'est évidemment, on trouve ça dans d'autres, ce don de quelque part de maîtriser ce langage du monde, ça veut dire qu'on maîtrise l'espace, enfin tout ce qui parle dans l'espace, donc on maîtrise aussi tout ce qui se passe dans le temps, donc ça donne aussi le pouvoir de divination, de prophétie, etc. Et donc, les autres exemples avant ce conte-là, c'est bien sûr Cassandre et Hélénos, qui sont, oh, c'est marrant, ils sont jumeaux, ils sont filles, garçons, jumeaux. Et eux aussi, tous les deux enfants de Priam, qui vont avoir don de poésie et de prophétie grâce à des serpents qui vont lécher leur langue et tous les organes de leur sens. C'est marrant, il y a des jumeaux. Oh, drôle. En fait, j'essaie de montrer qu'il y a vraiment une superposition entre le serpent et l'androgynie, enfin, et qui nous sert. Et que cette superposition a aussi un lien point commun qui est de maîtriser la parole agissante. Alors, il y a d'autres exemples, il y a Mélampous qui, lui, va faire les funérailles à un serpent mort qu'il trouve. Et donc, on dit que les enfants de ce serpent vont aller purifier les oreilles de Mélampous, qui, lui aussi, va être initié au langage secret. Et puis, évidemment, Tirésias, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, va, avec les serpents, traverser la frontière des sexes et du coup, être initié aussi, quelque part. Voilà, et puis il y a un autre conte, alors là, c'est peut-être pas tout à fait la même histoire, mais c'est pas grave, nous on s'en fiche, on est des artistes, on aime l'aventure. Il y a cette fameuse histoire qui est racontée, je sais que ça n'est pas le serpent n'est pas le seul personnage qui incarne ce conte, mais en tout cas, il y a le conte du prince serpent, hein, qui rejoint un peu l'histoire de la jeune personne qui va être présentée au monstre, hein, c'est un peu ça l'idée. Mais là, pour moi, je me suis dit, mais alors, si c'est un serpent, ça veut dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est s'il est masculin ou féminin. C'est un serpent. Donc, pardon ? Bah, quand tu le vois comme ça partir, tu vois, tu ne sais pas. A priori, tu ne sais pas. Et du coup, pour moi, c'était intéressant parce que dans le conte du prince serpent, il a aussi un rôle d'initiateur, le serpent. Pourquoi je dis ça ? Et un rôle d'initiateur à travers la fonction de la parole, parce que quand il dit à la jeune fille « déshabille-toi », qu'est-ce que ça veut dire « déshabille-toi » ? Ça veut dire « dévoile-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire « dévoile-toi » ? Ça veut dire « parle-moi ». Et donc, en fait, à travers la parole, il va initier la jeune fille à se raconter et lui-même va se raconter, puisqu'elle va lui répondre « parle-moi d'abord ». Et donc, tous les deux vont s'initier réciproquement. Et donc, pour moi, c'est aussi un récit d'initiation. Bon, je sais que là, j'y vais, mais avec toute la liberté. Et en fait, là, moi, ce qui m'intéressait dans ce conte-là, parce que c'est notre conte structure, en fait. On s'est servi de ce conte-là dans notre spectacle comme conte structure. Ce qui m'intéressait, c'est que nous, on était aussi sur un parcours de rencontre avec Bakary, et que c'était une manière de aussi illustrer ça. Et puis, ça, comme l'idée de départ, c'était de parler de l'altérité, c'était de ressouligner qu'il y a nécessité absolue de l'autre pour se dévoiler, pour se révéler, et pour se connaître, c'est-à-dire naître l'un à l'autre, en fait. Et encore une fois, on soulignait l'importance de la parole. et que comme on est des gens, des artistes de parole, ça nous intéresse de la mettre en valeur, donc à faire. C'est pour faire de la promotion de filière, quoi, je veux dire, vous voyez. Voilà. Alors, pour revenir sur Titette et Ticor, donc pour vous situer le conte, c'est un conte Karanga. Donc, c'est le peuple Karanga, c'est un peuple d'Afrique du Sud-Est qui est un peu sur le Zimbabwe, mais pas que, dans les pays limitrophes. Et donc, dans ce conte-là, c'est bien un serpent qui, par scission, va donner naissance à Ticor, l'homme qui chante et réjouit dans l'histoire. On dit même que dans le conte, alors le conte d'origine, parce que Google, je l'ai appelé pour savoir mais d'où tu sors ce conte, il m'a dit oh bah je suis allé voir dans Grunt. Voilà, mais il assume d'être un pilleur de contes. Mais quand je suis allé retrouver dans Grunt ce conte-là, il est raconté comme ça. Ticor vécut pourtant sans douleur excessive, car le créateur lui avait fait don d'une voix magnifique. Donc là, il y a encore la voix, la parole qui est là. En vérité, ses chants étaient si captivants que les gens, longtemps après qu'il fut parti, osaient à peine respirer. C'est pour vous dire, c'est pas des chants anodins, hein, c'est des chants profonds. Voilà. Et puis Titette, qui sort de la tête, donc, est la femme qui enfante et crée un royaume, puisqu'elle crée son village. Et je vous le redis là, notons que c'est le corps qui chante et la tête qui enfante. C'est quand même rigolo. Voilà. Et du coup, à partir de tout ce bazar là, on s'est dit mais quand même c'est marrant ce lien entre l'androgyne et le serpent. Et c'est un peu donc dans les contes que rencontrer, je dis bien dans les contes rencontrer, parce que notre recherche a bien entendu n'a pas été exhaustive. Hein, j'assume pleinement. Et ce qu'on a remarqué par contre, c'est que quand la frontière de sexuation est floue ou transgressée, eh ben, le serpent n'est pas loin, dans les contes qu'on a vus. Et la parole n'est jamais anodine. Alors quand je dis le serpent n'est pas loin, c'est comme et la frontière de sexuation floue ou transgressée, je fais allusion aussi par exemple à l'histoire d'Hermaphrodite, hein, le jeune Hermaphrodite, qui est fils d'Hermès et d'Aphrodite, qui est d'une beauté extrême lui aussi, ben, la nymphe Salmacis, elle veut s'unir à lui, mais c'est contre son gré à lui qu'elle va s'unir. Et il est décrit qu'il essaie de la repousser, mais elle l'enlace, telle le lierre embrasse le tronc des grands arbres. Et c'est vraiment l'image d'un serpent qui vient et qui a le même pouvoir de constriction que le serpent, c'est-à-dire qu'elle va s'unir à lui contre son gré. Donc là, c'est une androgynie par union, mais qui est tout aussi violente, en fait. Et en fait, Hermaphrodite, après avoir subi ça, il va jeter une malédiction. Sa parole est devenue agissante. Il va jeter la malédiction sur les eaux et faire en sorte que tous les hommes qui se baignent dans ces eaux deviennent des hommes amolis, enfin, je ne sais plus comment il dit, perdent leur puissance masculine, comme lui l'a subi. Donc, lui aussi, il a traverser quelque chose, la frontière des sexes, qui fait que sa parole, tout d'un coup, elle est agissante. Donc, c'est un peu cette chose-là qui a guidé le choix des récits du spectacle. Donc, pour présenter l'androgyne, le plus simple, comme on était là tous les deux sur scène, c'était d'incarner, même pas peur, les androgynes primordiaux, donc de raconter le récit de Platon. Et ce qui est intéressant dans le récit de Platon, c'est que, ok, ça explique la quête de l'amour, ça c'est une chose, la quête d'un retour à l'état originel, avant la séparation, puisque c'était quelque chose de violent, mais en fait, ce que ça raconte aussi, c'est que si l'androgyne, c'est une figure relationnelle parfaite par excellence, en fait, le fait que il n'y ait plus, ça postule la vulnérabilité dont on a parlé autour d'Eros et Psyché. Puisque l'androgyne a été coupé en deux et qu'il est en quête de sa partie manquante, il y a bien tout un chemin à faire où il est totalement vulnérable. Et donc, ça pose la question de la vulnérabilité et de l'interdépendance. Et donc, de créer de la relation pour se maintenir, pas pour rester debout, quoi. Et du coup, voilà, pour illustrer cette intuition, donc on a commencé par le récit de Platon pour présenter le bazar. Et puis après, on s'est servi du prince du conte du prince serpent comme conte, on va dire, trame. Et on a présenté le prince serpent donc comme un initiateur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et pour nous, le prince serpent, c'était un initiateur à la complexité, un initiateur à la diversité, parce que lui, il oblige l'autre à se parler, quoi, et surtout à accepter l'altérité. Alors nous, on ne va pas jusqu'au bout du conte, hein, on dit juste qu'ils se racontent l'un à l'autre. Et la dernière image qu'on donne sur ce conte, c'est le serpent est de plus en plus amical, en fait, il se rapproche de plus en plus de la fille qui parle, et vient même à son contact et l'encourage à raconter. En fait, c'est le prince serpent qui va commencer le récit de Tite à Téticor pour dire, tu vois, c'est pas si simple, une chose n'est pas qu'une chose dans la réalité. Donc il va l'initier aux multiples qu'il y a dans l'unité, et il va suspendre son récit et puis il dit, vas-y, à toi de parler. Et elle, d'instinct, elle va poursuivre le récit en disant, ok, il y a une femme qui est sortie de la tête. Bah, il y a un homme qui sort de la queue, comme un jeu. C'est comme une joute, en fait. C'est comme une joute orale qui se prête tous les deux. Et en fait, c'est elle qui va clôturer le récit au moment où Titette et Ticor elle va ramener Ticor à Titette, en fait, pour recréer l'unité. Et c'est ça qui va créer la rencontre entre le prince serpent et la jeune fille. On ne passe pas par les peaux, machin. Les peaux sont incarnées par cet échange de récits, en fait, cette joute de récits. Sont illustrés par un carnet illustré. Voilà. Alors pourquoi on a choisi Tite à Téticor? Parce que c'était le pendant un peu du récit côté continent africain, d'une part, mais c'est aussi parce que Tite et Téticor illustrent aussi ce pouvoir qu'on trouve quand on est près de l'androgyne, c'est le pouvoir de la création. Hein, il est à l'origine, au récit des origines, c'est que de la création. Et Titette et Ticor, en fait, quand on les regarde, on se dit, bah, tiens, c'est rigolo, parce que tous les deux, ils créent. Titette, elle met au monde, elle enfante, et Ticor, lui, il chante, il crée des chants, il envoie des chants sur la terre. Et tout le monde s'en régale, tout le monde s'en réjouit, et ça aussi, c'est de la vie. Donc, ils sont tous les deux dans un processus de création. Donc, c'est une manière aussi d'illustrer ce pouvoir particulier qui est conféré dans nos imaginaires à l'androgyne. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a fini cette histoire-là, on sort, et puis on va parler de Tirésias. Mais voilà, donc on avait un récit qui était assez cohérent, mais on ne pouvait pas juste poser ça comme une parole de vérité, parce que c'est une vérité relative, le temps du récit. Et on ne voulait pas non plus succomber à la tentation de l'universalité, de poser une parole de vérité. Et puis pour être honnête, il y a plein d'autres questions qui nous sont apparues quand on travaillait là-dessus. Et entre autres, est-ce que ces personnes ambiguës, est-ce qu'elles existent, quoi ? Est-ce qu'elles ont existé ? Est-ce qu'elles existent ? Et en fait, on cherche et on trouve. Et on trouve que, en fait... Si on recherche dans l'histoire, il y a des témoignages historiques qui montrent que oui, il y a des personnes. Entre autres, il y a un truc rigolo dans Montaigne, dans les Essais de Montaigne, où il relate que il y a un homme qui vient de se faire baptiser par un évêque, je sais pas, ou un curé, je sais pas, peu importe, mais qu'il est baptisé, il est vieux, il est fort, il est barbu, on vient de le baptiser et tout ça, on vient de l'appeler Germain, et que en fait tous les gens du village, cet homme-là, l'avait connu fille, nommée Marie jusqu'à l'âge de 22 ans. Ça, c'est un rapport, c'est un témoignage que écrit Montaigne, c'est pas un fabuliste, Montaigne, il racontait pas. Et donc, on se dit, tiens, c'est marrant, il y en a un là. Et puis on continue de chercher. Et en fait, on se rend compte que, alors je ne dirais pas dans dans tous les pays, mais en tout cas sur tous les continents, il y a des personnes qui traditionnellement et jusqu'à aujourd'hui sont androgynes, sont organisées en communauté. Et alors, par exemple, il y a les Tchétémoussotés au Burkina, il y a les Berdaches ou Double Esprit en Amérique du Nord, il y a les Hijra en Inde, au Pakistan, il y a les Mouchés au Mexique, il y a les Féminiés à Naples, il y a des communautés partout dans le monde, et que ces communautés, aujourd'hui, sont pour la plupart rejetées, marginalisées, parce que taxées d'homosexualité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et que même si elles sont rejetées, elles sont encore aujourd'hui craintes. Moi, j'ai vu un très beau documentaire sur les Hijra en Inde, où les Hijra sont des communautés d'hommes-femmes, on va dire, et qui sont appelées, donc elles sont un peu parias, elles survivent de dons et de prostitution. Et, mais en tout cas, elles ont une autre fonction, c'est que quand il y a une naissance, elles sont appelées. Et la famille n'a pas d'autre choix que de donner l'enfant aux Hijra. Les Hijra vont délanger l'enfant. Et si elles constatent que l'enfant a une anomalie sexuelle, anatomique, eh bien, elles l'emmènent. Et la famille n'a rien à dire. S'il est normal, elles vont relanger l'enfant. Elles vont le rendre à la famille. Et à ce moment-là, les Hijra, elles vont chanter des louanges ou des malédictions. Ça dépend de combien de pognon on donne. Donc, il y a aussi ce rapport à la parole agissante, et on y croit fermement, parce que je peux vous dire que les billets pleuvent. Voilà, et donc évidemment, il y a aussi dans ces communautés, souvent il y a un rapport à la parole qui est oublié ou pas, mais en tout cas, il y a un très beau, c'est Françoise Héritier, je crois, qui relate ça. Comment fabriquer les chamans chez les Inuits. Donc, c'est un petit passage qu'on raconte dans le spectacle parce que c'est quand même incroyable. C'est des sages-femmes inuites. Quand un nouveau-né arrive, elles regardaient le comportement du sexe du bébé. Et si elles voyaient le pénis rétrécir ou le clitoris grandir, elles savaient que l'ancêtre qui revenait dans le corps du bébé était de sexe opposé au bébé. Alors, elles le désignaient comme futur chaman. Et pour qu'il devienne chaman, cet enfant-là, il était élevé dans le sexe de l'ancêtre qui était revenu en lui jusqu'à sa puberté, et puis brusquement basculer dans son propre sexe. Et c'est ce passage encore symbolique, hein, d'un sexe à l'autre qui lui donnait les pouvoirs de chaman. Et ça existait. Ça, elle dit que jusqu'en 1975, ça concerne 15% des enfants inuits. Donc c'est beaucoup, en fait. Et voilà, donc ils ont toujours été liés, voilà, ils ont une fonction sociale de la parole qui malheureusement a été un peu mise de côté, enfin pas totalement. Et tous les chamans sont, les chamans aussi sont, on dit beaucoup qu'ils transgressent la frontière, enfin ils traversent la frontière des sexes, et c'est parce qu'ils transgressent la frontière des sexes qu'ils peuvent aussi transgresser, passer du monde humain au monde animal et du monde humain au monde des esprits. C'est cette traversée qui leur permet ça, en fait. Et chez les anciens sites, il y a les énarés, hein, qui étaient décrits comme des hommes-femmes depuis très longtemps et qui étaient les prophètes, quoi, les devins. Les Mahus de Polynésie aussi ont une fonction prophétique et tout ça. Et puis, pour revenir plus près de chez nous, nos curés qui sont en robe. C'est quand même bizarre, encore aujourd'hui. Enfin, ils pourraient mettre des pantalons aujourd'hui. Là, non, ils sont toujours en robe. Bon, je dis que c'est un clin d'œil, c'est un peu raccourci, mais pas que, en fait. Pas que. Et il y a aussi, je fais aussi allusion à Daniel Fabre, qui parle du travestissement dans les rites carnavalesques. C'est pas rien de se travestir et de s'afficher socialement dans l'autre sexe. Alors, c'est plutôt les garçons, hein, ça concerne. Enfin, moi, j'ai vu les deux dans les vallées piémontaises italiennes, mais où les filles se mettent en hommes et les hommes en garçons. Par chez nous, là, dans l'Aude et tout ça, c'est plutôt les garçons qui s'habillent en filles. Mais en tout cas, c'est un rituel initiatique, c'est-à-dire que ça fait partie du chemin initiatique de se travestir pour arriver à être pleinement homme. Ou alors peut-être rester chez femme si on s'y trouve bien. Ça, Ça, c'est, on n'est pas dans le détail là, hein. Mais ça se pourrait. Voilà. Et alors tout ça, c'est rigolo. Enfin, moi, nous, on a appris plein de choses. Hein. On était un peu à chaque fois, waouh, ok. Puis il y a plein de choses, plein de trucs qui s'ouvrent. Donc ça, c'est un peu le bazar mon exposé, mais c'est pour vous faire comprendre un peu dans quelle marmite nous étions. Et puis après, il y a eu d'autres rencontres. En fait, c'est rigolo. La première résidence qu'on a fait, c'était dans un village, je ne vais pas dire le nom. C'est dans un village, bah, si je peux le dire, parce que j'assume, c'était à Bram. On était dans la médiathèque et on a une résidence pour travailler sur le thème de l'androgynie. Et là, la médiathécaire, la première chose qu'elle nous dit, ah ben j'en connais un, à Bram. Ah ouais. Mais en fait, on est en 2014, là, hein, donc on n'est pas encore dans cette mode qui nous bassine, là. Je reviendrai après là-dessus, si vous voulez, mais on n'est pas encore dans tout ce gender fluide, LGBT, QQ+, je ne sais pas quoi. On n'en est pas là, on en parle à peine. Moi, je savais même pas. Enfin, je veux dire, quelque part, j'étais complètement naïf par rapport à ça. Mais ça, je fais, ah ouais, on peut le rencontrer. Et elle dit, oui, vous pouvez rencontrer Mathéo, il est vachement sympa, c'est un mec super sympa, il a 28 ans, l'âge de papa à l'époque, encore une coïncidence, on va dire. Et donc, nous voilà partis un matin, tous les deux, en voiture, aller voir Abraham, Mathéo. Là, on ne sait pas si on va se retrouver dans un film d'Almodovar, on ne sait pas, quoi. On va avoir une folle, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas qui on va trouver. Hein. Et on arrive dans un petit pavillon, tout ce qu'il y a de plus... Ouais. Mais franchement, on savait pas. Et c'était très étonnant parce que les deux personnes qu'on a rencontrées qui ont témoigné, parce que dans ce travail, il y a aussi du récit de vie, les premières paroles qu'ils nous ont dites, c'est « j'étais pas dans le bon corps ». Et là, tu vois, t'as le serpent là. Ça, toi, ça te fait bizarre. C'est quand même, faut mesurer. Moi, ça m'a. Il faut mesurer. Tout vacille. Parce que déjà, quand la terre tremble, il paraît que dans un tremblement de terre, que tu viens de tremblement de terre, tu ne sais pas trop où te fourrer. Tu es un peu secoué. Mais quand tu te dis que tu n'es pas dans le bon corps, ça doit être encore plus bizarre. Parce que c'est encore la matière qui est encore plus proche de toi. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup. Et ces gens nous ont livré tout leur voyage. Tout le chemin qu'ils ont parcouru pour arriver dans le bon corps. Alors, il y en a qui ne s'arrêtent pas tous au même endroit, hein, dans la métamorphose. Et ce qui était incroyable, c'est que moi, j'étais hyper surprise. Parce qu'en tant que femme, je trouve qu'on est assez parfaite comme être vivant, en fait. Je ne comprenais pas qu'on puisse vouloir quitter un corps de femme pour aller vers un corps d'homme, en fait. Vous comprenez ? Donc, c'était vraiment pour moi de l'altérité. Et puis, pour Bakary, qui... lui, eh ben, avait en face de lui un homme qui était avant une femme de son âge, qui, lui, est musulman. Alors, chez les musulmans, on accepte que les hommes deviennent femmes. Ça passe. Mais l'inverse, c'est chaud. Et lui, on a eu une rencontre, mais incroyable. D'autant que Mathéo, il a montré ses opérations, il a fait la phalloplastie, il a baissé son froc pour nous montrer sa cicatrice. Enfin, excusez-moi, c'est pas bon. Mais c'était très bouleversant. Émotionnellement, c'était très bouleversant. Et là, on avait quelqu'un qui n'était pas dans le... C'est pas des histoires, quoi. Parce que le chemin initiatique, là, il est raide. Parce que ça, c'est de la... C'est... On parlait de scission, je vous ai rappelé plusieurs fois la scission tout à l'heure. Là, c'est de la scission. Là, c'est de la cicatrice. Là, c'est de la mammoplastie, là, c'est de la phalloplastie, là, c'est des mètres de cicatrices, des zones de ton corps qui sont cartonnées pour des années. Enfin, voilà, c'est quand même pas... C'est un vrai chemin, quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, on ne peut pas parler de l'androgynie sans parler de ça, quoi. C'est pas possible. Et la deuxième personne qu'on a rencontrée, Vic, la première fois qu'on a rencontré Vic, on ne savait pas. On a rencontré un mec très beau, d'ailleurs. C'est bien que... Très beau mec. Et on ne savait pas. Et la deuxième fois qu'on est revenu, je ne sais plus pour faire quoi, avec Bakary, on venait pour autre chose. Hein. On vient dire, ah, mais vous travaillez sur l'androgyne, mais nous, on connaît quelqu'un, c'est Yavik. Yavik, on le connaît. Ah oui, mais avant, c'était une fille. Ah bon ? Et nous, on a rencontré un homme solaire, et il paraît que quand il était femme, c'était une petite femme discrète qui rasait les murs. Et donc, on l'appelle, on dit, on peut te rencontrer, on travaille dessus, il fait, ouais, super, EduxP. Il dit, ouais, c'est super, au contraire, moi, je suis éducateur spécialisé, je l'étais quand j'étais fille, maintenant, je suis un homme, je continue à faire ça, c'est vraiment une source de grande souffrance pour les jeunes, une grande source de cause de suicide aussi, il faut absolument en parler. Et donc, on va rencontrer cet homme, et la première chose qu'il nous dit, c'est, je n'étais pas dans le bon corps. Donc là, on s'est dit, bon, là, tu vas faire on en parle, quoi. Et donc, on va vous dire comment, de cette idée de parler de l'androgynie, de l'altérité, de l'importance de la relation, de la complémentarité, on s'est retrouvé face à des initiateurs, en fait, qui étaient androgynes, et qui nous... Et ils nous ont appris. Voilà. Donc, c'était plein de choses pour dire comment la réalité et la symbolique de notre sujet se mélangeaient. Donc, Vic nous a aussi raconté son histoire, et c'est un peu son histoire qu'on porte sur scène, hein, avec son autorisation, bien sûr. Hein, et là, quand on a commencé à raconter l'histoire de Vic, rien n'est écrit dans ce spectacle, sauf le petit passage de l'histoire de Vic. Pourquoi ? Parce que Vic, quand à 7 ans, il se rend compte qu'il n'est pas dans le bon corps, parce qu'il va se baigner à la rivière avec un de ses frères et sa mère, et puis il regarde sa mère qui s'est minue, son frère qui s'est minue, il se regarde, il se dit, moi, je ne suis pas dans le bon corps. Donc là, il dit, ça m'a comme cassé en deux, c'est moi, lui. Et du coup, après, on ne peut plus dire « elle », puisque lui ne se sent pas « elle ». Donc, on dit comment ? À l'époque, en 2014, il n'y avait pas « elle » encore, on n'était pas encore dans tout ça. Donc, on s'est dit « mince, mais comment on parle ? Il n'y a pas de neutre en français. Il n'y a pas de neutre. » Donc, ça a été un travail d'écriture pour faire des tournures de phrases où à aucun moment, on entend du genre. Donc, on se sert de Vic, puisque c'est son prénom actuel, Et on ne dit pas il ou elle, on dit Vic a entendu dans sa tête. Voilà. Et ils se sont pris tel quel quand on parle de sa première compagne, tel quel. On essaye d'effacer. Ben, au début, ce n'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Et je peux vous dire que moi, j'ai assisté à un mariage de femmes. Après le mariage pour tous, et le maire adjoint qui faisait le mariage, en fait, ils n'avaient pas encore changé les textes officiels. La loi était passée, mais les textes n'étaient pas changés. Ben, ils étaient là, oh, excusez-moi, ils n'ont pas changé. Oh, ils n'ont pas changé. Bref. Donc, dégenrer le récit, c'était pas une mince affaire. Et du coup, ça fait réfléchir sur pourquoi il n'y a pas de neutre dans la langue française. Est-ce que ça a toujours existé ? Depuis quand ? Et surtout, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est quand même une réalité, on voit que ça existe depuis toujours, ces êtres-là existent depuis toujours, que symboliquement, ils sont agissants et forts, ils ont une parole agissante et forte, et tout d'un coup, pff, ils disparaissent. Enfin, en allemand, il y a du neutre, il y a plein d'angles où il y a du neutre, nous, on n'en a pas. On se demande pourquoi. Peut-être une royauté trop forte, je ne sais pas. Voilà. Et du coup, pour finir, après tout ça, il a fallu penser à comment on déploie l'esthétique de ça. Et l'idée, c'était quand même de... Moi, je suis un peu... J'ai l'air un peu bordélique comme ça, mais j'ai un côté un peu puriste. Et je voulais que le fond, la forme et la façon soient en adéquation. Et du coup, le fond, c'était de mettre ensemble toutes ces paroles qui sont de nature complètement différente, parce qu'il y a les récits de vie, il y a le mythe, le conte, mais il y a aussi tous ces flash infos, toutes ces infos autour de la législation aujourd'hui. Parce qu'on est on se croit très émancipé, très en avance en Occident, mais par rapport à ces questions-là, on est super en retard, en fait. Le premier pays qui reconnaît l'existence d'un troisième genre, c'est en 2011, et c'est le Népal. Ouais, c'est pas chez nous, quoi. Donc, c'était de mettre toutes ces infos ensemble au même endroit, en fait. Et puis, c'était de donner à voir notre dualité complémentaire, quand même, qui était propos d'origine, notre à nous deux, notre androgynie potentielle. Et donc là, c'est un travail très simple sur le costume, inversé. Et puis aussi, quand même, de montrer en même temps, symboliser l'unité et l'origine sur le plateau. Et ça, c'est juste un cercle de terre qui symbolise en même temps le monde et en même temps notre monde intime, notre espace intime. C'est pour ça qu'on joue dedans, dehors, en fonction des paroles qu'on endosse. Et puis, l'idée, alors ça a été plutôt théorique que pratique, mais on l'a quand même fait un petit peu, c'était de jouer avec un double regard extérieur. C'est-à-dire qu'au début de la création, on a demandé à deux artistes complices de venir nous aider. On a demandé à Bernadette Bidaud et à François-Moïse Bamba de venir faire un double regard pour essayer de jouer aussi dans la façon de jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Et pour finir, j'ouvre juste sur des... Parce que comme je suis la dernière conférence de la journée, je pense que j'aurai l'audace d'ouvrir avec des questions. Y a-t-il une nécessité absolue de dualité dans nos sociétés? Point d'interrogation. Ce qui n'est pas la réalité biologique. Et qu'il y a beaucoup de questions de conteurs ou de conteuses aujourd'hui, surtout de conteuses d'ailleurs, qui se posent la question de la représentation féminine dans les contes, machin, nanana. Moi, je poserais plutôt la question de toujours parler en termes de dualité. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut remettre en question? Et est-ce que si on trouble la notion de genre exprès, là, c'est un truc révolutionnaire, qui est institué, qui a été décrété, qui n'est pas une réalité biologique et naturelle. Est-ce que ça ne permettrait pas aujourd'hui de rendre plus perméables justement les frontières entre notre intériorité, notre extériorité? Est-ce que si on ouvre l'humain et qu'on s'occupe plus trop du masculin, féminin, tout ça, est-ce que ça ne nous rendrait pas plus perméables aussi et plus ouvert à tout ce qui est vraiment l'altérité, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire la nature. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on revient à l'origine, au serpent qui est entre ces mondes-là, entre le monde végétal et le monde animal. Voilà. Est-ce que ce mouvement, aujourd'hui, qu'on constate dans nos sociétés, autour de l'androgynie et de la revendication de sortir de la dualité, n'est pas une quête inconsciente, en fait, d'un retour vers le monde extérieur, quoi, et sortir de cette perception du monde modélisée qui est absolument fausse, qui est caduque, on le sait, et même on va droit dans le mur avec ça. Est-ce que c'est pas une quête inconsciente, un sursaut? C'est une question. Voilà. Et bref, que ce serait peut-être bien, et peut-être réfléchir aussi ça quand on porte des récits, de reconsidérer pleinement au mieux la complexité de toutes les dimensions du réel. Autrement dit, voilà, de nous permettre de repenser entièrement la notion de sujet comme étant interconnecté à, constitué par et responsable de l'autre avec un grand A. Et cela permettrait d'engendrer une pensée de la relation éthique, mais aussi pratique de la sollicitude et du care, comme disent nos amis anglais. Voilà.
Et le voilà, impeccable. Donc, Hélène, tu as les remerciements des personnes en ligne. On a Claire Péricard, pardon, de la PAC, qui te demande s'il existe aussi des hommes-femmes, parce que tu as parlé des femmes-hommes. Et puis après, c'est plus des interventions sur ce que tu as dit. Donc, si tu veux répondre déjà.
C'est le contraire. Est-ce qu'il y a
des femmes, hommes? Oui, tu en as nommé en Inde, c'est ça?
Oui, non, mais quand on dit, en fait, quand on dit tchete, par exemple, au Burkina, quand on dit tchete moussoté, c'est ni homme ni femme. Alors, il y a des endroits où ils appellent homme-femme. L'autre, c'est ni homme ni femme, c'est-à-dire qu'ils sont entre les deux. Alors, c'est très compliqué. Il y a plein de nuances, hein, mais par contre, quand on a commencé à parler de ça, Grace dit, oui, tu étais mentionné, mais oui, mais on te venait avant de partir, avant de la chance, quand j'étais petit. Et par contre, il y a aussi une femme qui a tout fait avec les hommes et qui se considérait comme un homme et qui a tout fait avec les hommes, qui fait les choses d'hommes, etc. Donc, après, est-ce que ces gens, est-ce que ces personnes vivent dans la même communauté? Ça, je sais pas te dire. Après, c'est des questions de comment les gens s'organisent en communauté entre eux, parce qu'en fait, l'organisation en communauté est une question de survie. Hein, pour la plupart du temps, c'est une question de survie économique. Mais après, les doubles esprits, c'est le très beau conte qui est raconté par Chez qui l'a bellement mis en image, d'ailleurs. Oui, peu importe, en fait, c'est un homme-femme qui rencontre une femme-homme, on va dire. Et que c'est juste peu importe, c'est une frontière qui d'un coup s'efface. Je ne réponds pas à ta question, Claire, mais tu sais, je fais toujours comme ça.
Donc, juste des propos. Enfin... aussi quelques mots de Claire par rapport au témoignage que tu nous as donné sur Mathéo. C'était juste que ce n'est pas forcément une mode actuellement, puisque c'est aussi ce que vivent les jeunes de nos jours par rapport à ce que tu disais au début de ton intervention. Et juste pour dire que par rapport au fait que tu as essayé de dégenrer ton récit, c'est ce que tente de faire la PAC en travaillant sur l'oralité inclusive et égalitaire dans les répertoires. Voilà. Ce que disait Claire. Et puis après... Ah oui, on avait une question d'Anne Marchand, et je suis désolée, ce sera la dernière question. Le prince serpent est-il vraiment un initiateur ou un initié, ou les deux à la fois? Il me semble que tu as répondu un petit peu ça, mais si tu veux reprendre.
Je pense les deux, hein. On ne peut pas être un initiateur sans être un initié, à mon avis. Hein? Sans l'avoir été. Donc, je pense les deux. Et puis, bon, après, moi, je mets des bémols à ce choix de compte. Ce choix de compte nous sert, nous, dans la construction et tout ça. Après, c'est vrai que dans la chambre, c'est pas toujours un serpent qu'attend la jeune fille. Hein. Donc, soyons clairs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de toute façon une métamorphose, de toute façon un changement de peau, de toute façon une traversée. Enfin, voilà. Mais nous, ça nous arrangeait bien que ce soit le serpent. Ça nous a aidé, en fait, à monter le spectacle. Et pour répondre à ta question, Claire, c'est une question. Moi, ce spectacle, on l'a monté en 2014. On a fini de le créer sous sa forme actuelle, qui est, je pense, fonctionnelle aujourd'hui, en 2018. Pour vous dire qu'on est passé par plusieurs regards extérieurs, pas que des conteurs, parce que c'était très confus, en fait. C'était une espèce de tourbillon, et puis c'était tellement... je ne sais pas si c'est un effet initiatique ou pas, mais de pouvoir ce terme, ça nous a mis dans un espèce de tourbillon. C'était très, très difficile d'être dedans, dehors. Donc, on a fait appel à des copains. Et pour finir, on a fait appel à Colette Minier, qui, elle, par sa carrière aussi de clown, a dit « Oh, pff, 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 t'enlèves ça, hop, tu viens. OK, bon, d'accord, merci. » Donc, il n'y avait pas de discussion, c'était comme ça. Et puis, c'était une période où on était extrêmement fatigués, donc il n'y avait pas de résistance, en fait. Et du coup, ça a très, très bien marché. Donc, on remercie aussi Colette de ce concours-là. Et pour dire que entre 2014 et 2018, il s'est passé des choses dans nos sociétés qui, moi, c'est un spectacle qui a tourné pas énormément. Hein. Et depuis 2018, il a dû tourner une vingtaine de fois. Mais en fait, parce que moi, j'avais un questionnement qui me taraudait, c'est que je ne veux pas faire de prosélytisme, absolument pas, sur la question de la transidentité, du transgenre. C'est-à-dire que moi, d'avoir rencontré ces personnes qui ont fait ce chemin, c'est un chemin tellement difficile que tu ne peux pas dire... c'est pas un effet de mode, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un effet de mode. Quand la personne en face de toi, tu ne suis pas dans le bon corps, ce n'est pas juste parce qu'il y a machin qui a sorti une nouvelle ligne de costume à la mode pour les androgynes. Ce n'est pas de la rigolade, en fait. Et que du coup, c'était compliqué parce que, évidemment, le monde marchand, dès que l'éventail s'ouvre, eux, ils s'emparent des intervalles pour faire du business. Et que du coup, comme ça s'est ouvert vraiment entre 2014, on était au début, enfin, on n'a pas fait gaffe, en fait, on a chopé ça, ça devait être dans l'air du temps. Et du coup, depuis, c'est engouffré le monde marchand. Et c'est terrible parce que autant cette question de trouble de genre est effectivement une source de grande souffrance chez les adolescents, autant c'est loin d'être la seule source de souffrance des adolescents. Et du coup, par contre, s'ils prennent ce chemin-là, parce que c'est le truc à la mode, bah, y a des côtés quand même irréversibles, quoi. Et quand je dis irréversible, c'est violemment irréversible, quoi. Et du coup, ça nous posait un endroit, un questionnement éthique qui est, et de responsabilité qui est pas rien. Et en même temps, on se mettait porte-parole d'une minorité qui n'a pas le droit à la parole dans notre société, en fait. Et depuis longtemps. Il y a quand même Bernadette, quand elle nous a travaillé, elle expliquait qu'elle avait rencontré comme elle est artiste de la lenteur, dans ses longs séjours de résidence, un couple de personnes âgées, où à force de rediscuter avec eux, la femme avait, enfin, tous les deux, ils avaient livré à Bernadette que le soir, lui, il s'habillait en femme, il allait rejoindre ses copines. Mais personne ne savait au village. Mais ils faisaient ça depuis, ils sont mariés depuis 50 ans, ils font ça depuis 50 ans. Et que voilà, c'était convenu, c'était dans leur contrat d'être ensemble, quoi. Et qu'elle l'aimait comme ça, et donc elle l'aime comme ça. C'est un peu l'histoire de Psyché, hein. Ah bah, finalement, c'est un peu pareil. Parce que c'est quoi, voilà. Et que du coup, c'est intéressant. Enfin, aujourd'hui, quand on est face aux jeunes, parce que l'idée c'est de le montrer aux jeunes, ce spectacle, hein, donc on va vers les collégiens, les lycéens, c'est absolument pas d'être dans une posture de prosélytisme en disant si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, les ados, c'est à cause de ça, quoi. Non, absolument pas. C'est juste de dire ça existe depuis toujours, ça existe partout. On en parle dans nos récits, on en parle dans les récits, c'est dans les récits des paroles, des gens qui ont des paroles agissantes, dans les sociétés traditionnelles aussi des gens qui ont des paroles agissantes, hein, qui étaient des paroles de rituels et tout ça. Que dans les sociétés patriarcales, monothéistes, eh ben on a tout fait pour mettre ça de côté, comme d'habitude. Mais ça existe, cela est, ça fait partie de la nature. Donc on va arrêter avec nos conneries de modélisation patriarcale et monothéiste, et puis on va regarder la vérité, pas la vérité, du réel commun partagé en y mettant le plus de complexité possible. Il faut arrêter de penser bêtement, quoi. Et donc c'est juste ça qu'on essaye un peu de je ne leur dis pas comme ça, hein, aux jeunes, hein, mais... Et pour que effectivement il y ait un peu de, pas de compassion, mais en fait d'égard par rapport à des personnes qui se trouvent vulnérables parce qu'ils vivent ça, qu'ils ont ça à traverser et que c'est pas rien.
Au départ, c'était sur l'altérité, la question.
La question.
L'altérité, la différence.
Tout à fait.
Et donc, mais là, ça s'est plus polarisé apparemment dans ce que tu racontes.
Bah, de fait, mais c'est pour moi et pour Bakary, c'était de l'altérité. Donc on a
oui, le sujet pour lequel ça s'est fixé.
Voilà, sur cette. Oui, c'est vrai.
Je suis désolée, la dernière question, ouais. Parce qu'on a un spectacle dans peu de temps et on doit aller organiser de l'autre côté.
Ouais.
Je sais la question suivante. Dans les groupes, est-ce que. Les questions de la capacité des hermaphrodites à se reproduire. Une descendance
des questions des hermaphrodites. C'est bien que c'est la question, parce que justement, on a été
fondamentalement sur les questions qui se posent actuellement. Il y a quelque chose d'irréductible, c'est que le petit homme est enfanté par la femme, il est porté, il est soigné pendant un certain temps par la femme. Pour le moment, ça c'est irréductible. On n'arrive pas à imaginer que le petit homme soit un jour, sauf à être dans les découvertes, enfanté par l'homme.
Alors, il y a plusieurs questions très rapidement. Ouais. Alors, c'est où le machin là? Hop là. Là. Oui, alors la question c'est est-ce qu'il y a dans les récits des androgynes qui se reproduisent?
Voilà,
une descendante. Bah, déjà, il y a dans les récits d'origine. Dans les récits d'origine, c'est bien un hermaphrodite, enfin un androgyne. C'est pas pareil, hermaphrodite androgyne. Hein. Il y a une nuance, mais bon, parce que il y a un androgyne, c'est l'idée du féminin et du masculin réunis. Hein. C'est pas de l'homme et la femme, vraiment. L'hermaphrodite, c'est plus charnel, c'est plus incarné, on va dire. C'est plus. Et du coup, dans la réalité quotidienne, dans d'autres récits, je ne sais pas, je demanderai à Marc, c'est lui spécialiste, pas moi. Mais je te renvoie le bébé. Mais par contre, dans la réalité, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, différentes choses. Il y a les intersexes, des gens qui naissent intersexes, c'est-à-dire qu'on les anatomie des deux sexes. Ces personnes-là sont ont les appareils génitaux qui ne sont pas complètement développés, donc sont en général stériles. Et même si, en France encore, jusqu'à peu, même encore aujourd'hui que ça existe, je pense, il y a des médecins qui disent aux parents qu'il faut absolument les opérer et les ranger dans un sexe. Hein, donc c'est après, les gamins, ils sont obligés de prendre des hormones toute leur vie. Enfin, bref, je vais passer les détails. Et on va après dire au pays qui existe que c'est un scandale et tout ça. Mais bon, je ne vais pas faire polémique. Et du coup, ça, c'est les intersexes sont en général des personnes stériles. Après, il y a l'idée du transgenre, c'est-à-dire que je suis dans un corps, mais mon cerveau ne me perçoit pas dans le bon corps. Ça, ce n'est pas une question d'appareil génital. L'appareil génital est normal, fonctionnel. C'est juste qu'il y a une rétro... Alors, il semblerait maintenant, au niveau de la recherche, qu'il y a, pendant le développement fœtal, il y a une rétro-information qui n'est pas arrivée au cerveau et que le cerveau ne se perçoit pas, au bon endroit. Ça arrive. Et du coup, ces personnes-là, ils peuvent dire, moi, je suis dans un corps de femme, je voudrais être un homme. Comme a fait Vic, par exemple. Vic, il a changé d'apparence parce que en France, par exemple, pour pouvoir changer de sexe sur son état civil, et c'est ce qu'importe à ces gens, c'est d'être identifié, reconnu par l'autre, justement, il y a encore le regard de l'altérité, par l'autre comme étant dans le genre dans lequel il se sent. Donc Vic, par exemple, il a changé d'apparence puisqu'il a pris des hormones, il a fait une mammectomie, et par contre, pour pouvoir changer de sexe sur son état civil, en France, jusqu'à aujourd'hui encore, je crois, ou alors c'est très récent que ça a changé, il y a une opération qui est obligatoire, c'est la castration. Donc, en France, un homme ne peut pas porter d'enfant, même s'il a un vagin. C'est fou. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est fou. Ça existe, il y a une législation. On a légiféré là-dessus parce que c'est un problème, effectivement. Mais un transgenre, s'il change de sexe et qui garde son appareil génital, si une femme devient homme, elle peut porter un enfant en tant qu'homme.
Si, Hélène, il y a des transgenres qui ont des enfants maintenant. J'en connais un qui a 3 enfants, un homme qui est devenu une femme.
Oui, mais est-ce que c'est pas lui qui les a portés?
Si.
Avec son vagin fabriqué, avec sa vaginoplastie, il n'a pas d'utérus quand même.
Écoute, il a témoigné.
Peut-être.
C'est l'affiche du planning qui a fait fureur l'été dernier, où on voyait un homme enceint.
Tu m'enverras l'info parce que. Oui, mais c'est un homme enceint, donc c'est une ancienne femme. C'est une femme qui est devenue homme. Donc c'est un homme transgenre. Ce n'est pas une femme transgenre, c'est un homme transgenre.
Ah oui, pardon.
Mais du coup, ça pose beaucoup de questions. Et par contre, la question de, on peut fabriquer un vagin à un homme, quand le pénis on le retourne, hein, parce que de toute façon c'est juste une chaussette à l'envers, une chaussette à l'endroit. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a toujours pas l'utérus, quand même. Il n'y a pas l'utérus. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Il n'y a pas de détails. C'est pas aussi. Voilà, ouais. En tout cas, même si dans le prince serpent, à la fin, si l'être il est androgyne et ambigu au début, il se métamorphose pour devenir homme ou femme, et donc il se sexue. Mais c'est l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que nous, quand on est enfant, avant la puberté, si on ne soulève pas nos jupes, on ne sait pas si on est des filles ou des garçons, en fait. Et c'est bien l'arrêt, ce que racontent les mythes aussi. Il y a bien une étape qui est la puberté, qui est cette étape de métamorphose, et qui est le moment précis où il y a plein de rites d'initiation, justement. Et après, on devient homme ou femme, c'est ce qu'on raconte dans les contes. Le serpent, il enlève toutes ses peaux, puis à la fin, c'est un homme. Ça aurait pu être une fille. On aurait eu une histoire d'homosexuel. D'ailleurs, nous, on fait rentrer un garçon hein, dans la chambre du serpent aussi. On s'est dit, on fait un coup une fille, ça ne marche pas, un coup un garçon, ça ne marche pas, bah, le troisième qui est une fille, bon, voilà. Mais du coup, voilà, ça raconte l'histoire de la vie. Comme nous, on passe à la ménopause, dans les poils qui poussent, on redevient un peu entre les deux. Voilà, quoi. On commence à avoir le petit bidou. Ouais, c'est pareil. Et du coup, pour finir, Vic, il n'a pas fait la phalloplastie, lui. Il est très, très bien dans sa tête, cet homme. C'est un homme solaire, maintenant. Et il n'a pas fait de phalloplastie. Donc, quand on a un traitement hormonal, on change d'apparence, bien sûr. On a les muscles qui sortent, voilà, la barbe, tout ça. Et on a aussi le clitoris qui grandit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être un clitoris qui fait à peu près cette taille-là, quoi, la moitié d'un stylo, et que du coup, ben, ce n'est pas avec ça qu'il fait jouir sa compagne, parce qu'il a une compagne, il dit « je n'ai pas besoin de sexe pour faire jouir ma compagne ». Ouais, il y a plein d'autres méthodes. Hein. Et puis, voilà, pour lui, ce n'était pas l'essentiel, c'était pas de voir tout l'attirail et tout ça, c'était vraiment qu'on l'identifie quand on le voit, qu'on dise « bonjour monsieur ». Voilà, ce qui n'est pas le cas de Mathéo. Lui, il a été au bout du processus. Alors là, je vous passe les détails de la construction. C'est quelque chose. Mais voilà. Et ça marche. Hein, les petits moteurs, il ne faut pas avoir une panne d'électricité, mais ça marche. Mais du coup, c'est des vraies rencontres très, très, très étonnantes. Et je trouve très belle parce que du coup, là, il n'y a pas de filtre, quoi. Les gens, ils témoignent de leur parcours, mais qui n'est pas rien, quand même. Qui est un...
Mon fils, elle, quoi. Une petite amie, je sais qu'il est divers.
Bah pour l'entourage, c'est extrêmement difficile. En fait, nous, on a eu la chance de rencontrer la mère de Mathéo et qui nous a dit « Mais moi, j'avais 3 enfants, j'en ai 4. Personne ne me retirera ma petite fille qui est devenue Mathéo. » Et c'est sorti, comme je vous le dis. Elle, bien sûr, en tant que mère, s'est beaucoup inquiétée pour la santé de son fils, oui, parce que c'est un parcours chirurgical qui est très lourd. Mais en tout cas, elle dit, maintenant, j'ai 4 enfants au lieu de 3. Quoi. Et c'est rigolo parce que cet endroit-là, c'est comme s'il y avait une naissance de plus. On est encore dans l'idée de la création, tu vois. Et tout ce chemin que doit faire l'entourage, accepter de changer le prénom de la personne, de dire. Et ça, même pour des gens très ouverts d'esprit, hein, c'est pas simple hein, d'avoir Michel et tout. Michel, c'est un prénom androgyne, donc ça ne marche pas. D'avoir Alain et de tout d'un coup devoir dire Aline. En général, ils prennent vraiment d'autres prénoms pour pas qu'il y ait confusion. Mais voilà, c'est, pour l'entourage aussi, c'est très initiatique. Et du coup, ça pose une question intéressante. Moi, je trouve aussi qu'il y a une question qui nous tarabuste depuis longtemps. On a beaucoup parlé de l'amour ce matin, mais qu'est-ce qu'on aime chez l'autre? C'est quoi ça? C'est quoi ce mystère? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire que c'est de l'amitié plutôt que de l'amour? Qu'est-ce qui nous relie à l'autre, vraiment, fondamentalement? Pour moi, c'est une question mystérieuse. Quoi. Ce sera le sujet de mon prochain spectacle. Non, merci à vous. Merci pour cette belle journée.
Donc, en tout cas, les personnes tiennent vraiment à remercier... Les intervenantes d'aujourd'hui sont passés à un moment, voilà, très riche et très multiple. Merci à vous. Il y a un spectacle de Daniel Lomo, Parfois les arbres, à